J'ai eu quelques inquiétudes en terminant de préparer cette deuxième lecture, puisque je vais vous parler d'Apocalypse aujourd'hui, et qu'au moment où je réfléchissais et notais des idées sur l'Apocalypse, mon livre est tombé dans l'eau. Donc, je sais pas, déluge. Pour l'instant, il est lisible, mais il est encore humide à la fin. D'ailleurs, je devrais appeler mon livre Moïse. Voilà. Il va être beaucoup question de la Bible et tout ça aujourd'hui. Enfin, beaucoup, un peu quand même. Mais pas seulement, puisque j'avais envie d'avancer ce qui me semble être une catégorie prometteuse de désignation de certains types de romans aujourd'hui, celle de roman vert. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je vous propose aujourd'hui qu'on essaye de lire La Chambre aux Échos comme un roman vert. Donc c'est évidemment une formule qui joue sur celle de roman noir, laquelle désigne, je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, mais un genre, peut-être le genre par excellence, le type de roman à l'intérieur de cette vaste catégorie de romans, la sous-catégorie de romans qui est la plus facile à identifier en termes de procédé, de type d'histoire, de construction, de type de personnage, d'ambiance, taux d'atmosphère. La catégorie de roman noir, elle a été très utile pour qu'on se souvienne qu'à l'intérieur du roman, il y a des genres de romans différents. Et aujourd'hui, cette catégorie-là, celle de roman vert, commence à être utilisée de plus en plus fréquemment. Je la rencontre chez les libraires, je la rencontre chez les critiques, donc c'est deux types de professionnels qui rangent les livres, les libraires au sens propre, dans des rayonnages, et puis les critiques ont des rayonnages plus intellectuels, mais ces rayonnages comptent aussi. Donc on est peut-être en train d'assister à l'émergence d'un nouveau genre. On dit souvent qu'on dit une époque pauvre, bon, voilà, s'il se passe des choses comme ça, déjà, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que je comprends pour l'instant de cette catégorie qui m'intéresse au premier chef dans mon propre travail, puisque au moins mon deuxième roman, et puis le troisième en cours, et même le quatrième qui commence à s'esquisser, ont à voir avec cette catégorie, je crois. Un roman vert, ce que j'en comprends, c'est que c'est un roman écologique, à la fois par les thèmes, donc c'est, pour le dire très vite, l'écosystème comme sujet du livre, mais aussi par l'intrigue. Et là, c'est très souvent l'écosystème comme enjeu. C'est deux manières différentes d'utiliser la question de l'écosystème littérairement. Comme thème, il est question de l'écosystème, et comme enjeu, l'écosystème est à la croisée d'un certain nombre d'intentions de différents personnages qui construisent du récit. Cette catégorisation de roman vert à propos de La Chambre aux Échos, moi, quand j'ai commencé à l'esquisser, je me suis dit très vite, ça va poser une question spécifique, et vous pouvez en prendre la pleine mesure, puisqu'on a déjà fait une première lecture de La Chambre aux Échos. Comment est-ce qu'un roman qui parlait tellement de l'intimité, de la psychologie au sens le plus micro-physique du terme, les neurones, les connexions, les synapses, comment est-ce qu'un tel roman peut arriver à la fois à articuler le très intime et la question du vaste monde, disons, le grand dehors et le grand dedans? Barry Sharpowers a une idée très puissante pour répondre. Il nous dit que la pensée et l'écosystème, c'est la même chose. Que la pensée d'abord fait partie de l'écosystème, ce qui est une position, on le verra, de la part d'un Américain qui est assez singulière, les Américains ayant tendance à considérer que l'homme ne fait pas partie de la nature, pour des raisons qu'on évoquera, a fortiori donc sa psyché, ce qui fait son humanité spécifique. On s'attendrait à ce qu'un Américain pense cette psyché comme séparée de la nature, ça n'est pas le cas de Sharpowers. La psyché, la psychologie fait partie des phénomènes naturel, des phénomènes de l'écosystème, et il a cette spécificité, en plus, cet univers psychologique, cette échelle psychologique, elle a cette spécificité de refléter à merveille toute la complexité de l'écosystème. Il y a un effet de miroir très puissant entre ces deux objets. La psyché, en quelque sorte, la miniature de la nature, par ses réseaux, par ses mouvements, par son infinité. Et ce pari de dire, en gros, la pensée fait partie de la nature, fait partie de la terre, ce pari, il est présent dès le titre, tel qu'en tout cas la lecture nous amène à le comprendre, puisque si on articule les différents passages qui semblent l'expliciter, la chambre aux échos, on voit que ces passages désignent tour à tour le cerveau et de grands phénomènes naturels, disons. On avait regardé la page 403 ensemble la dernière fois, mais on peut retourner y jeter un œil. C'est cette scène où Weber prend une douche en Australie, il est complètement perdu. Donc Weber, le neurologue célèbre, qui est un des personnages principaux de l'histoire. Voilà, il se promène, il est invité à droite et à gauche pour parler de son travail, et il est dans le décalage horaire, il est en plein début de dépression, disons, quoi, par rapport à la qualité de son travail, il se remet en question, et il prend une douche après une nuit blanche, et il a des espèces d'intuitions qui lui révèlent en direct comment fonctionne le cerveau. Et il finit par dire, Nous n'habitions pas à l'intérieur de nos muscles, de nos articulations et de nos tendons, nous habitions dans l'idée que nous nous en faisions, dans l'image et le souvenir que nous en gardions. Pas de sensations directes, mais seulement des rumeurs aux échos incertains. On en était venu la dernière fois, cette idée que le cerveau, c'est la chambre aux échos, c'est-à-dire un endroit qui centralise des échos du monde, mais non pas leur présence directe. Le cerveau ne propose pas d'accès direct au monde, il n'en reçoit que des échos. C'est ce que dit ce passage. Donc ce serait une première explication, la chambre aux échos, c'est le cerveau, comme espèce d'organe de réception de messages indirects venus du monde. Bon, c'est déjà riche comme proposition, mais Powers n'en reste pas là. Allons voir page 284, c'est-à-dire on est encore au tout début de la troisième partie, qui est ce long développement sur la présence des grues dans les différentes mythologies à travers le monde. Une espèce de passage assez étrange. D'un seul coup, Powers fait une espèce de page Wikipédia des grues dans les contes. Il fait le recensement complet, ou presque. Enfin, on a une impression d'exhaustivité très grande. Et on lit deux choses, page 284 et 286. 284, c'est le premier paragraphe. Tous les hommes ont vénéré la grue, cette grande oratrice. Un petit peu plus loin. Un clan Anishinabek portait le nom de ces oiseaux, Ajijak ou Busanesi. Je ne sais pas si c'est le mot qu'a donné business, mais je trouve ça assez drôle. Le nom de ces oiseaux, les faiseurs d'échos. Ah bon, d'accord. Donc, les échos, c'est pas juste ce truc du cerveau, c'est aussi le cri poussé par une variété particulière d'oiseaux. Bon, donc ça se passe pas dans le cerveau, ça se passe dans le grand dehors. C'est des animaux migrateurs qui font des milliers de kilomètres depuis des millions d'années. Et ça continue. Les grues étaient des guides, des voix qui appelaient tous les peuples à l'unité. Crow et Cheyenne taillaient des flûtes dans les os creux de leurs pattes pour faire écho aux faiseurs d'échos. Donc la chambre aux échos, c'est l'endroit où sont les faiseurs d'échos, c'est-à-dire la Terre. C'est une des propositions que je peux faire. Oui, si les grues sont les animaux qui font les échos, les grues habitent littéralement la Terre. Elles font des milliers de kilomètres pour passer du nord du Canada au sud du continent. Elles habitent la Terre. L'endroit où la chambre qui fait entendre leurs échos, c'est la Terre. Je glose. Et troisième chose, un petit peu plus loin, page 286, c'est la fin de cette page Wikipédia. Pas forcément très réussi comme procédé littéraire dans son ensemble, mais il y a des propositions à l'intérieur qui sont passionnantes. Du temps où les animaux et les gens parlaient la même langue, l'appel des grues exprimait exactement ce qu'il voulait dire. À présent, nous vivons parmi des échos incertains. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur migration, dit Jérémie, le prophète, dont il sera question tout à l'heure. Seuls les hommes manquent à la loi du Seigneur. Richard Powers, c'est à la fois un fan de science et un type qui reconduit une espèce de rhétorique biblique dont les Américains sont complètement pétris. Alors, à présent, nous vivons parmi des échos incertains. Je ne sais pas exactement qui est le « nous », si ça désigne uniquement l'humanité, moi c'est ce que je crois comprendre. Du temps où les animaux et les gens parlaient la même... Bon, les gens, c'est pas ça qu'il fallait écrire. C'est pas très bien traduit. Hein. C'est pas les gens, c'est les hommes. C'est probablement parce que c'est « people » en anglais, mais là, « people », c'est les hommes. Du temps où les animaux et les gens parlaient la même langue, l'appel des grues exprimait exactement ce qu'il voulait dire. Bon, c'est l'époque avant Babel, avant le péché, tout ça, où on se comprenait tous, quoi. Il n'y avait pas d'arbitraire des langues, il n'y avait pas de langue, il y avait une espèce de langage universel, fantasmé, un âge d'or. Bon, très bien. En tout cas, à présent, nous vivons parmi des échos incertains. Là où nous sommes, c'est ça. Le lieu dont il est question reste assez imprécis, mais je crois comprendre que c'est notre monde. En tout cas, il ne s'agit pas simplement du cerveau. Là, il n'est plus question du cerveau, comme c'était le cas dans le premier passage. Donc, le titre en lui-même nous met sur cette piste, la psyché et le monde entier, le grand dehors et le grand dedans, s'articulent. Et Richard Powers a trouvé un titre qui est à l'articulation des deux univers. Pour résumer ce petit propos introductif, ce qu'on peut dire, a priori, à partir de cette lecture du titre, c'est que la chambre aux échos, c'est la tête et c'est la terre. Alors, trois propositions pour développer cette catégorie de romans verts. Dans la première, je voudrais qu'on parle des grues. Dans la deuxième, je voudrais qu'on parle de Daniel. Daniel, un personnage qu'on a évoqué la dernière fois, mais sur lequel il faut qu'on s'arrête. Et puis, la troisième partie, je ne vous dis pas ce que c'est, parce que je veux un peu garder mes effets. Alors, je vais commencer par vous parler des grues, donc en essayant d'articuler deux choses qui sont propres à leur présence dans le roman. Les grues dans La Chambre aux échos, c'est à la fois l'objet d'un savoir et l'objet d'un enjeu. Ce qui est sûr, c'est que Richard Powers utilise les grues comme un phénomène de migration naturelle et comme une source de questionnement spirituel. Alors, en ce qui me concerne, là, du point de vue qui m'importe aujourd'hui, ce point de vue de la présence de l'écosystème dans un roman, ne pouvez pas simplement parler de l'écosystème dans un roman. Un roman, c'est des idées de la chair, il faut de la chair. Et là, la chair, c'est les grues. L'intermédiaire que Powers nous propose pour nous donner à réfléchir à la question de l'écosystème, c'est les grues. C'est la principale manifestation de la terre dans le roman. C'est à travers ce personnage collectif des grues qui font escale au large de cette petite ville qui n'a aucun intérêt que lui. Petite ville des Grandes Plaines, donc autrement dit nulle part. C'est à partir de cette présence des grues que la Terre, par ses vastes phénomènes, nous est rendue accessible. Et ce phénomène migratoire, il est étroitement lié à l'histoire principale, d'abord. Donc je rappelle, cette histoire principale, c'est le terrible accident de Mark Schluter, terrible accident de voiture, de combi en fait, dont il se réveille atteint du syndrome de Capgras, c'est-à-dire qu'il reconnaît physiquement sa sœur, mais sans aucun effet affectif, sans aucun affect. De telle sorte qu'il la soupçonne d'être une doublure. Plutôt que de se dire il y a un truc qui est cassé dans le raccord cérébral entre la reconnaissance physique et l'attachement mental, il préfère se dire non, je suis une unité cérébrale, c'est elle qui est une imposture. L'articulation entre l'accident et la migration, elle se fait d'abord par simple concomitance. Marc fait sa sortie de route au moment où les grues sont là et à quelques mètres d'elle. On imagine même le véhicule venant les déranger. C'est une très belle idée, cette scène, parce qu'elle articule la grâce des grues et la violence mécanique. Donc il y a un très fort contraste. Et elle ne va pas arrêter cette scène de revenir comme une espèce d'obsession. D'abord parce qu'il faut essayer de la comprendre, pourquoi il y a eu un accident, etc. Mais pour plus que ça, c'est vraiment un effet qui est digne de la vision que beaucoup d'écologistes américains ont de la présence humaine sur Terre. C'est-à-dire, nous, les humains, on est des camions qui rentrent dans les grues. C'est comme ça qu'ils se conçoivent. On va voir que ça a des limites. Cette présence des grues, elle va aller plus loin dans un délire de Marc, après l'accident, jusqu'à l'identification. Il a l'impression d'avoir été l'objet de manipulation, etc. Et à un moment, il se demande si on n'a pas mis un peu de grue en lui. Si on n'a pas mis un morceau de grue, un cerveau de grue en lui. C'est une très belle scène, à la fois très drôle et très puissante. Mais il se trouve surtout que cette intuition qu'il a dans son délire, d'une certaine façon, elle est confirmée par les sciences du vivant, pour toute l'espèce humaine, pas seulement pour lui. En effet, il y a une très grande proximité morphologique entre l'Homo sapiens sapiens et la catégorie Grudae, les grues. C'est ce qui nous est rappelé page 541, passage assez troublant. Juste après la mention du syndrome de Capgras. Très beau passage. Ces oiseaux dansaient comme nos plus proches parents. Ils leur ressemblaient, appelaient, voulaient, enfantaient, enseignaient et sillonnaient le monde tout comme nos frères de sang. La moitié de leurs organes résidait encore en nous. C'est des choses qu'on sait depuis les études de Linné, depuis la morphologie comparée. C'est vrai, vous regardez des squelettes de grues, des fichus, bonne partie pareil. Alors, je me défie de parcourir des kilomètres en volant, comme elles le font, mais voilà. Il y a cette espèce de tentative de rapprochement de l'homme et de l'animal qui va dans le sens du roman vert et qui va contre un certain nombre de catégorisations qu'on a utilisées pendant longtemps pour distinguer, séparer l'espèce humaine du règne animal. Et cette comparaison entre les corps des grues et les corps des hommes, elle va encore plus loin sur la question de la mémoire, qui est absolument centrale dans le roman, puisque Marc perd la mémoire sur cet aspect crucial de sa relation avec sa sœur, elle ne la reconnaît plus, il y a un problème de mémoire, et puis il a des troubles de mémoire secondaires. Alors qu'une grue n'oublie jamais le parcours qu'elle effectue, qui se transmet de génération en génération depuis la nuit des temps, puisque les grues sont parmi les plus vieux oiseaux sur Terre, c'est des restes des dinosaures, les grues, c'est des dinosaures qui volent, quoi. Donc il y a quelque chose dans le cerveau d'une grue qui grave un parcours inaliénable. Et ça, ça fascine Power. Marc est un humain au cerveau plus complexe, mais pourtant si fragile qu'il oublie ce qui semblait inoubliable, un lien fraternel. Alors précisément que la grue est un animal qui fait famille. Par exemple, pratique la fidélité conjugale, pour le dire avec un anthropomorphisme tellement gros que j'en ai honte. Donc en soi, cette comparaison de la grue et de l'homme, elle replace l'homme dans une posture d'humilité. Une grue, elle fait peut-être pas des équations du troisième degré, mais elle n'oublie jamais un parcours. Et elle l'enseigne à ses petits. Qui l'enseigne. La place dominante de l'homme dans le système monde est forcément relativisée par cette question de la mémoire qui est ici mise en scène. Et c'est ça, un des enjeux du roman vert. De dire, voilà, il n'y a peut-être pas de pyramide, en tout cas on n'est pas au sommet. Nous, les hommes. Dans la construction de l'intrigue en elle-même, je parlais de la scène initiale de l'accident, mais voyons comment ça se développe, la présence des grues dans l'intrigue. La migration, elle joue deux rôles différents, et presque contradictoires d'ailleurs, puisqu'elle sert à la fois de pause dans l'avancée de l'intrigue, et de relance, à un moment particulier, qu'on va regarder de près. Les pauses, elles sont surtout présentes dans le premier des 5 chapitres. Dans le premier, encore pas mal dans le deuxième, et puis ça disparaît petit à petit. Elle se raréfie. Ces pauses dont je parle, c'est ces moments où on en apprend sur les grues, où le roman nous donne du savoir sur les grues. Voilà de quel point à quel point elles vont, voilà comment elles se comportent. Effectivement, la question du comportement, d'ailleurs, elle est importante. Il s'agit souvent de remarques qu'on pourrait appeler éthologiques, donc tirées de cette science qui est celle du comportement animal, l'éthologie. Par exemple, ces développements sur le comportement de fidélité dans le couple, qui est une spécificité, qui est une particularité des grues qui n'est pas partagée par toutes les espèces et qui mérite de l'analyse. Mais Powers fait donc aussi un tour très complet de la place des grues dans différentes mythologies, et en ce sens, il articule, comme il le fait très souvent, du scientifique, du très scientifique, avec du très littéraire. Et même dans les passages les plus scientifiques, son style est tellement lyrique qu'on a l'impression qu'il pourrait nous émouvoir en écrivant des équations. Et il ne se contente pas de décrire la vie des grues, il nous donne l'impression qu'on rentre dedans, qu'on devient grue à côté des grues, parmi les grues. Il nous fait entendre pratiquement la conscience d'une grue, qui a d'ailleurs de curieuses ressemblances avec celle d'un homme qui sort du coma, qu'on avait vu en fait dans le passage de la dernière fois. Passage de flux de conscience. C'est comme si les grues étaient pour Powers, en fait, par leur conscience et par leur corps, par leur fonctionnement cérébral, disons, et l'ensemble de leur corps, des ancêtres qu'on a toujours présents dans le corps. Et dans les moments de quasi-mort, ces ancêtres sont ceux qui nous restent. On repart comme une grue quand on se relève d'un coma. On repart au stade grue et on en a besoin. Alors, cette alternance entre le déroulé de l'histoire qui avance, voilà, il y a un accident, il y a la sœur qui arrive, il y a l'arrivée de Barbara, il y a le neurologue qui est contacté, Gérald Weber, bon, l'intrigue se construit, et puis en même temps, il y a ces espèces de pauses comme ça, oui, alors elles arrivent de tout là-haut, elles passent par là, voilà l'écosystème dans lequel elles se trouvent. Et bien cette alternance, moi, ça me fait penser à un très grand roman de la littérature américaine qu'on connaît un peu, puisqu'on l'a lu ensemble, c'est Moby Dick. Moby Dick, c'est à la fois le grand récit d'aventure mystique. La baleine, c'est Dieu ou le diable. Mais en tout cas, on court après. C'est vraiment un récit haletant, il y a du suspense, il y a des tas de choses. Et puis, un chapitre sur deux, c'est un traité de cétologie. Ça nous apprend tout sur les baleines. C'est une longue page Wikipédia sur les baleines, encyclopédique. Donc, ça commence comme ça, La Chambre aux échos. Ça commence un peu sur ce mode-là. Moi, je me suis demandé à la première lecture s'il n'allait pas effectivement reconduire cette structure de Moby Dick tout le long du texte. Et puis non, il choisit un étiolement progressif, comme si à un moment, il faisait confiance au lecteur. Voilà, mon lecteur sait ce que c'est qu'une grue, maintenant il est dans l'univers, il y a ses oiseaux, je peux en rester là. Il se concentre sur d'autres choses. Alors sur quelle chose? Par exemple, sur un moment où la question de la migration ne sert plus seulement de pause, mais carrément de relance dans l'intrigue. Donc c'est la deuxième fonction de la migration dont je voulais vous parler. C'est la séquence Monopoly du roman. On a l'impression que d'un seul coup, on rentre dans un jeu de Monopoly. Effectivement, il y a une intrigue foncière, au sens strict, qui concerne le foncier, qui implique directement la zone où les grues viennent rituellement se poser dans la rivière Platte, qui est ce nom qui vient du français parce qu'elle est très basse, puisqu'à une époque, les États-Unis ont failli être français. Donc au large de Kearney, il y a cette zone où les grues viennent et où les touristes viennent voir les grues, donc ça fait tout ça beaucoup de monde. Et cette intrigue foncière, elle intervient très astucieusement à peu près au 4/5 du roman, ce qui est judicieusement placé. La Chambre aux échos, c'est quand même un gros bateau, il faut l'avaler. Powers est obligé de faire que Karine soit quelqu'un qui s'acharne à soigner son frère et que ce soit très long. Il est obligé de faire que Barbara reste mystérieuse très 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 longtemps. Il est obligé de faire que Weber ait une descente très lente aux enfers, qu'il ait une espèce de bluette profonde, enfin voilà, avec Barbara. Tout ça, ça prend du temps et à un moment, il faut un peu de biscuit, il faut un peu de rebond. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit? Là, je vais mettre ma petite séquence Monopoly. Et c'est pas juste pour le bien de l'intrigue, c'est vraiment intéressant, cette séquence. Il y a deux logiques foncières qui s'affrontent, c'est deux types de parcs, le parc naturel d'un côté et le parc d'attraction de l'autre. Ça, c'est très américain. Chasser les hommes, ou alors les divertir. C'est comme les ZAD. Justement, ce qui m'intéresse avec les ZAD, c'est que c'est des lieux dont les humains font pleinement partie. Sivins, Notre-Dame-des-Landes. Alors les ZADistes, ils occupent le terrain. C'est pas un parc naturel, c'est pas un endroit où il faut qu'il y ait le moins d'hommes possible et qu'il soit le plus discret possible. C'est un lieu où on tente au contraire de réarticuler son activité humaine avec une activité globale, une activité d'un milieu naturel. Donc ça, c'est pas du tout américain, on va voir. Alors oui, chasser les hommes, c'est le parc naturel, et les divertir, c'est le parc d'attraction. Mais attention, c'est un parc d'attraction avec cette nouvelle mode qui consiste à donner aux gens qu'on divertit le sens de la valeur de la nature. Le projet immobilier, c'est celui-là. C'est toujours le même truc, quoi. On part d'une situation qui est déjà problématique et on se dit, on va essayer de la résoudre. Et en fait, on va augmenter le problème. Pourquoi ? Il y a déjà plein de touristes qui viennent. C'est problématique, ça risque de gêner les rues, ça risque d'appauvrir les ressources en eau, de la rivière qui est déjà plate. Donc, ce que disent les promoteurs immobiliers sympathiques, évidemment plein de philanthropie, c'est on va organiser les choses. Et du coup, on va faire un grand bâtiment, très écolo. Et ça, ça va tourner. Ça va nous permettre, nous, de faire de l'argent, parce que quand même, c'est le signe de notre élection de chrétiens protestants, de s'enrichir. Mais, caution géniale, les gens repartiront plus conscients de la beauté de la Terre et qui nous auront lâché leur fric. Cette opposition-là, donc, elle recouvre, cette opposition entre le parc naturel et le parc d'attraction, elle recouvre une philosophie de la nature qui est très américaine, c'est-à-dire que l'homme n'en fait pas partie. Il ne sait que la salir par sa présence. C'est-à-dire, soit c'est vraiment l'élu, soit c'est vraiment le punk dans la philosophie américaine. Soit il est au-dessus de la nature, soit quand il est dedans, il ne sait pas se tenir. Il ne peut honorer la nature qu'en s'absentant, donc en créant des réserves, ou en les filant aux Indiens, puisque de toute façon, ceux-là... Alors tout ça est très lié à la présence première des Indiens avant que les colons n'arrivent. J'en parlerai un petit peu dans ma dernière partie pour prolonger cette réflexion, mais je ne vous dis toujours pas de quoi elle parlera. Bon, pour l'instant, prenons acte de ce truc très américain. L'homme ne fait pas partie de la nature, soit il la salit, soit il s'en dégage. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet aspect théorique qui est présent en sous-main dans le roman, il est mis au service de l'intrigue, parce qu'il s'incarne dans des personnages. J'ai nommé Daniel l'écolo et Robert Karch, l'agent immobilier sans scrupules. Donc c'est pas un débat théorique. Il y a du débat autour de ce projet immobilier, il y a une rencontre publique qui est assez musclée, mais ça passe pas par des rencontres philosophiques ou des purs esprits qui communiquent. C'est un débat public, ça taille le bout de gras. Donc Daniel versus Karch, et au milieu, Karine, qui est évidemment amoureuse des deux, qui est employée de la réserve d'oiseaux, qui milite férocement contre le projet immobilier et pour une extension de la zone de parc naturel. Mais cette Karine, elle trouve quand même que le projet immobilier n'est pas inintéressant. Bon, en gros, elle illustre par là ce qui est sa position existentielle dans toute l'intrigue, qui est l'illusion de pouvoir harmoniser les contraires. C'est l'étau dans lequel Karine vit. Elle s'auto-bloque dans cette idée qu'on peut harmoniser les contraires dans la vie. Son boulot, avant qu'elle vienne s'occuper de son frère, c'est en gros le bureau des plaintes d'une grosse boîte. Et ça consiste à dire donc, vous avez raison, mais ma boîte aussi. Et pourtant, on a trouvé un point d'accord, voilà, combien je vous donne, combien vous voulez. Elle est au bureau des plaintes. Et elle fait ça dans la vie aussi. Elle est tout le temps en train d'harmoniser les contraires depuis qu'elle est toute petite. Bon, c'est très bien raconté par Powers, qui est un très bon romancier de la famille. Et puis derrière ce truc d'harmoniser les contraires, c'est aussi une perversion de Karine, à la fois d'être la sainte et celle qui se salit en tant que sainte. Parce qu'elle joue quand même les Matahari dans cette histoire. Elle joue les agents doubles. Elle va prendre des petits déjeuners avec son presque amant dans le dos du saint, Daniel. On va développer cette figure-là, tantôt. Bon, cette séquence qui pourrait sembler dynamique, utile pour relancer la machine, mais un peu à l'écart du fil narratif principal, qui reste quand même l'enquête autour de Marc. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va retrouver la mémoire? Comment marche le cerveau? Etc. Et bien, cette séquence, elle joue pourtant un rôle important dans l'avancée de l'enquête. Par un détail très bien fichu. C'est lors de la réunion publique où s'affrontent les écolos et les promoteurs, Daniel versus Karch, que Daniel rencontre pour la première fois Barbara. Barbie. C'est grâce à Richard Powers que j'ai compris que Barbie, ça venait de Barbara. En fait. Même la littérature, c'est fort. Hein. Donc, c'est par l'entremise de Karine, qui a rencontré Barbara en soignant son frère à l'hôpital, c'est par l'entremise de Karine que Daniel, l'écolo de service, rencontre Barbara pour la première fois. Et ça va mettre en branle la résolution du mystère qui tourne autour de cette aide-soignante. Parce que c'est Daniel qui va, le premier, savoir ce qu'elle cache. Donc il joue sur ce plan un rôle crucial, je vais développer. Donc Daniel va jouer un rôle clé sur ce plan, mais sur bien d'autres plans aussi. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on s'arrête un peu longuement sur cette figure, parce que je crois que c'est un personnage typique de ce qu'on peut attendre du roman vert. Et qui mérite à lui seul donc, un commentaire un peu circonstancié. Donc après les grues comme savoir et comme enjeu, comme savoir littéraire, scientifique et comme enjeu foncier, voici Daniel. Daniel aurait été un personnage impossible avant les années 60, disons, en gros. Les années 60, c'est-à-dire là, l'émergence du discours scientifique et politique d'alerte quant à la démesure de l'activité humaine au sein du système planétaire. C'est à ce moment-là, à peu près, que les scientifiques commencent à être un peu entendus, puis il y a des structurations en mouvement politique qui viennent assez vite, hein, par rapport à l'émergence de ces discours. Chez nous, René Dumont, 1978. Coluche dit à ce moment-là, pour qu'un écologiste gagne à la présidentielle, il faudrait que les arbres votent. C'est le génie pur, quoi. Une formule comme ça, c'est vraiment puissant, quoi. Aujourd'hui, on est dans le monde où, dans les chambres d'hôtel, on vous propose de sauver la planète. Et ça, c'est mentionné par deux fois. C'est Weber, quand il arrive à l'hôtel à Kearney, qui voit, voilà, autour de sa serviette. Bon, alors si vous avez utilisé votre serviette, mettez-la au sol, comme ça on sait qu'il faut la laver. Vous savez, ce rituel que personne ne respecte dans les hôtels, parce que les serviettes sont systématiquement toutes lavées. Bref, ce truc de sauver la planète avec sa serviette, ça c'est pareil avant les années 60, si vous voulez. Imaginez, moi je sais pas, enfin De Gaulle, imaginez De Gaulle, voilà, un type comme De Gaulle, de cette génération-là, qui arrive à l'hôtel et qui voit sauver la planète avec votre serviette. Non, il n'est pas dans cet univers-là, De Gaulle. Il est dans un univers épique où pour sauver la planète, on fait la guerre, on fait la résistance. C'est pas la serviette, on se rend pas compte de ces trucs. On est vraiment dans un autre monde. Donc c'est ce monde-là où Daniel peut émerger. C'est le terreau où un personnage comme Daniel peut surgir. Notre époque est-elle pauvre ? Pas du tout. Nous assistons à la naissance de nouveaux types de personnages. Mais donc, comment on fait pour inventer des nouveaux personnages ? Des nouveaux types de personnages, je veux dire. C'est pas rien, quand même. Comment faire pour que des lecteurs s'y retrouvent ? Bon, il y a des enjeux contemporains, d'accord, il y a des résonances avec leurs préoccupations. Mais est-ce que ça suffirait à faire émerger des personnages ? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur de l'existant, sur bien ancré dans nos imaginaires, le déplacer, le réarranger, voilà, faire de la littérature. La littérature, c'est ça, c'est tout le temps cette espèce d'aller-retour, souvent écœurant, entre des vieilleries et le présent le plus présent, le présent le plus intense qui soit dans le langage et dans l'histoire. On n'arrête pas de travailler avec ce matériau quand on écrit. Alors, je détaille un peu. Qu'est-ce que c'est que Daniel ? Quel type de personnage c'est ? C'est un écologiste dont tout le mode de vie est orienté par ses convictions. On peut résumer ce mode de vie par deux traits principaux, la basse consommation et la paix. Daniel, d'abord, basse consommation, vit de récupération, il chauffe peu, il mange local, etc. La paix, il la cultive en lui et avec ses semblables, notamment par une pratique intensive du yoga, complètement inimaginable dans l'univers de De Gaulle. Avec des jambes pareilles, d'abord, comment voulez-vous vous mettre en lotus ? Donc la paix, il la cultive comme ça, entre lui et lui, avec ses semblables, mais dans sa relation à tout le vivant. Pas seulement avec les hommes. Pour lui, la paix, c'est le mode de relation à l'intérieur et à l'extérieur. Et notamment dans sa relation aux grues, auquel il entend laisser un territoire propre, puisqu'il travaille pour ça. Et c'est important, cette histoire de territoire, parce que l'enjeu de la guerre ou de la paix, et de la paix, c'est toujours un territoire. Il n'y a pas d'autre enjeu. Alors, si on regarde de près, c'est vachement intéressant, ces deux traits, la basse consommation et la paix, parce que c'est un type de héros qui s'oppose radicalement au canon du héros occidental masculin. Qu'est-ce que c'est qu'un héros occidental masculin à la racine de notre culture ? C'est un guerrier, d'abord. L'Iliade, premier roman, Dixit, premier roman de la culture européenne, c'est la guerre. Et puis, comment se comportent les hommes ? Dans la dépense. Le grand truc d'Achille, c'est les colères. Le grand truc d'Ajax, c'est les colères. Un homme, ça fait la guerre en se dépensant. Donc c'est l'inverse de la paix et de la basse consommation. Et ce modèle du héros guerrier, il est reconduit en plus, mais largement moqué dans la chambre aux échos. Il y a un des deux copains de Marc qui s'engage et qui part en Afghanistan, dans l'Amérique post-11 septembre. Une espèce de truc de violence internationale qu'on peut à peine raconter autrement comme ça. Bon. Et du coup, Daniel en surgit d'autant plus dans sa fraîcheur. Je veux dire, l'autre, il arrive, il est à moitié cinglé, il est très drôle, mais c'est pas un soldat glorieux, je veux dire. C'est plus possible un soldat glorieux dans l'univers de Powers. Donc Daniel est là dans sa nouveauté, d'autant plus en contraste par rapport à cette espèce de brutasse. Et pourtant, cette fraîcheur, elle ne vient pas de nulle part. La figure de Daniel n'est pas une génération spontanée, je dirais. Il associe et réinvestit les traits d'au moins deux grands types de personnages qui sont ancrés depuis très longtemps dans nos imaginaires. C'est d'un côté le scientifique et de l'autre côté le religieux. Et ces deux aspects sont condensés autour de la page 300, où on va aller jeter un petit coup d'œil un peu attentif. Côté scientifique, Daniel y rejoint la figure de Weber, donc, mais d'une façon différente. Il est zoologue, particulièrement ornithologue, donc il est dans la science du dehors. Il n'est pas dans la science du dedans de la boîte crânienne. C'est la figure du messager du dehors, Daniel, dans notre histoire. Weber, c'est la figure du messager du dedans. La chambre aux échos, c'est la rencontre de ces deux sciences. Donc ce Daniel, il dispose d'un savoir, en tant que scientifique, mais il dispose surtout, et c'est encore plus intéressant, d'une posture. Un tout petit passage, c'est le début du dernier paragraphe de la page 301. C'est le moment où Marc est suffisamment d'aplomb pour pouvoir rentrer chez lui, et où Karine va faire le ménage. Et en ménage chez Daniel, elle vivait dans la maison de son frère, elle la remet en état, elle fait du faux désordre, pour que ça ressemble au moment où Marc a quitté son domicile. Et elle vient avec Daniel, pour qu'il lui donne un coup de main. Et ça dit ça, le début de ce dernier paragraphe, page 301. Elle évacue à la Homestar, donc c'est le nom de la maison, après avoir effacé ses traces. Daniel, l'expert pisteur, capable de rester immobile et de se volatiliser, lui prêta main forte. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il l'aide à camoufler ses traces. C'est pour ça que ses qualités professionnelles sont évoquées là. Alors, lisons bien. L'expert pisteur, capable de rester immobile et de se volatiliser. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La posture de Daniel, c'est d'être un lecteur de signes. C'est quelqu'un qui voit des signes dans le dehors, dans le milieu, expert pisteur. Il est discret, capable de rester immobile, voire absent, capable de se volatiliser. Expert pisteur, capable de rester immobile et de se volatiliser, égale lecteur de signes, discret, voire absent. On va retenir ça, parce que ça va rejoindre son côté religieux, d'une certaine façon. Allons voir deux pages avant, page 299. Alors là, c'est au milieu de l'avant-dernier paragraphe. Celui qui commence par une question, où vas-tu aller? C'est Daniel qui demande à Karine, bah, tu lâches ton appart dans ta ville de Sioux City, là, mais tu vas où alors? Puis il va l'inviter chez elle, en fait. Et on nous dit, quatre lignes après le début de ce paragraphe, ces dernières semaines, Karine venait dormir plus souvent dans la cellule du moine. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un moine? Je disais qu'il a un côté religieux, ce Daniel, qui est assez évident. On parlera de son nom tout à l'heure. Mais un moine, c'est quoi comme type de religieux? Ce moine qui vit dans une cellule. C'est un certain type de religieux bien particulier. Un moine, c'est un pauvre volontaire. C'est pas juste un pauvre, c'est un pauvre volontaire. Et pourquoi il est volontaire pour être pauvre? Ce qui est quand même paradoxal dans l'histoire de l'humanité, vous reconnaîtrez. Parce que c'est pas juste parce qu'il aime la pauvreté, c'est parce que c'est une discipline intérieure. Et je dirais qu'il a l'impression qu'il la provoque en ayant le moins de matérialité possible. Il a un mode de relation au monde qui ne passe pas par des objets. Il est directement connecté à du vivant. Mais étudions voir cette connexion. Un scientifique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met le monde à distance, qui le connaît d'une certaine façon, mais qui ne l'appréhende pas directement, qui ne l'appréhende pas des lois, des expériences, de la mesure. Et un moine, c'est quelqu'un qui met à distance les pulsions intérieures. Donc, au total, Daniel, c'est à double titre, un être de retrait. C'est quelqu'un qui est dans le retrait. Le retrait du scientifique par rapport à son objet. Et d'ailleurs, Daniel ne veut pas embrasser les oiseaux. Il veut les voir de loin, avec des jumelles. Retrait du scientifique par rapport à son objet et retrait du spirituel par rapport à ses pulsions. Le scientifique met à distance le monde extérieur, le religieux met à distance les pulsions intérieures. Donc c'est doublement un être de retrait, ce moine zoologue. Mais ce retrait, il n'est plus cultivé pour les motivations qui étaient celles du scientifique ou celles du religieux. Et c'est là qu'il y a l'invention d'un personnage. Ces caractéristiques issues d'un côté du scientifique et de l'autre du religieux, elles sont réinvesties au service d'une juste place de l'homme dans le milieu. C'est ça qui intéresse Daniel. Et c'est pour ça qu'il se tient à distance. C'est pas pour être un bon scientifique ou un bon religieux. Il reçoit ces caractéristiques de ces deux modèles, non plus parce qu'il aime le savoir ou parce qu'il aime la discipline intérieure, mais parce que c'est au service de ce qu'il cherche, c'est-à-dire une juste place dans le milieu. Pour lui, être à la juste place dans le milieu, c'est être à distance du milieu, et doublement. C'est un être à distance qui chérit la distance comme seule possibilité de vie avec la nature. C'est le modèle du parc naturel. Je peux vivre à côté de la nature, mais pas avec elle. Même s'il peut parler avec les oiseaux, il ne vit pas avec eux. Et son histoire avec Karine illustre ce retrait. D'une autre façon, je dirais qu'il vit à côté d'elle plutôt qu'avec elle. Même s'il l'accompagne avec cette espèce de caractéristique bouddhiste de la grande compassion, une compassion qui est tout le temps une immense mise à distance. Alors, je vais développer sur son profil de religieux, parce que ça ne tient pas qu'à son existence de moine. Ce qu'il hérite des modèles religieux, c'est d'abord un nom, pas n'importe quel nom. Daniel, il faut bien que j'en parle quand même. Powers a nommé son personnage Daniel, de la part d'un type qui est pétri, comme beaucoup d'Américains, de culture biblique. Daniel, c'est qui ? C'est l'un des quatre grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il s'appelle. Catégorie de petits prophètes et de grands prophètes. C'est assez drôle. Parce qu'il y avait petite souris et grand souris. Petite souris et rat. Surmulot. C'est le surmulot, Daniel. L'image archétypale de Daniel, c'est quoi? C'est Daniel dans la fosse aux lions. Les lions arrivent, ils sont morts de faim, ils voient Daniel, ils le mangent pas. Parce qu'ils se sentent. ce sera amer. Non, ils sentent la sainteté. Ils sentent la sainteté, bien sûr. Et puis, je ne sais plus qui déboule, et de vraiment impur, et les lions se ruent sur lui, et voilà. Donc l'idée de la fausse alliance, c'est ça. C'est pas un martyr qui meurt dans d'atroces douleurs comme Sainte Blandine, qui est confrontée au même type de fausse, mais plus sucrée, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui repousse le martyr qu'on a voulu lui faire subir. Bon, mais de toute façon, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement le coup des lions, c'est que Daniel est un prophète. Le Daniel de la Bible. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est un certain type de discours. Le discours prophétique, d'abord, c'est une interprétation. C'est quelque chose qui décode un discours prophétique. Prophétique, on pense d'abord à la relation à l'avenir, le fait que ça annonce quelque chose sur l'avenir. Mais c'est pas d'abord ça. Une prophétie, c'est quelque chose qui interprète. Et en interprétant, la prophétie aboutit à deux choses. C'est très schématique, hein, ce que je dis. Il y aurait plein de cas particuliers, tout ça. Mais elle aboutit à la critique du présent. Ça, c'est un autre aspect très important de la prophétie. Et à l'annonce d'un futur, disons, intense. Soit l'Apocalypse, soit le grand retour du Jardin d'Éden, saison 2. Ça, c'est plutôt l'option marxiste, par exemple. Le Daniel de l'Ancien Testament, c'est bien un interprète, puisqu'il est payé, logé, nourri par le roi de Babylone pour décoder ses rêves. C'est pas mal. Le roi de Babylone fait des songes, c'est le roi des Perses à ce moment-là, il fait des songes très étranges, et il demande à Daniel, qu'est-ce que ça veut dire? Aide-moi, Daniel, je ne sais pas interpréter, aide-moi. Et Daniel, par exemple, doit décoder ce songe devenu très célèbre, où le roi de Babylone voit un colosse au pied d'argile. Et oui, l'expression du colosse au pied d'argile, ça vient du livre de Daniel. Et que lui dit Daniel, ce colosse au pied d'argile, toi, l'empereur, toi, le roi, c'est toi. C'est toi. T'es très grand, mais t'es fragile. Et c'est pas seulement toi, c'est ton empire. Ton empire, si tu ne te rédimes pas, un grand mot de prophète, si tu ne deviens pas vertueux, si tu ne te rachètes pas, la dîme, c'est un impôt. Tu ne te rédimes pas. Ton royaume court à sa perte et ta personne au premier plan. Bon, alors Powers, il est dans son bureau. Il se dit, comment je vais l'appeler, mon personnage d'écolo de roman vert bon. Il a hésité, je peux vous dire. Hein, on va voir qu'il a hésité avec un autre prénom. Mais il choisit Daniel. Et ça tombe bien, parce que ce qui veut dire Powers, c'est que, en gros, les États-Unis, c'est un colosse au pied d'argile. Que le capitalisme, c'est un colosse au pied d'argile. Que l'humanité, c'est un colosse au pied d'argile. Qu'on se croit très fort, tous, là, et que on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Tu as tout sali, et ton règne touche à sa fin. Donc, il y a une espèce de pessimisme apocalyptique dans le discours de Daniel, qui rejoint le discours d'un autre grand prophète de l'Ancien Testament, qui s'appelle Jérémie, celui qui a donné naissance aux Jérémiades. Alors, les Jérémiades, c'est plutôt des plaintes. C'est pas exactement ça que fait Jérémie. Jérémie, il dit pas « Oh, j'ai mal !» Il dit « Oh, c'est mal !» C'est autre chose. Jérémie, il est convoqué deux fois dans le texte, mais deux fois importantes, au moins deux fois importantes. On l'a vu, page 286, tout à l'heure, autour de la mythologie des grues, là. « La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur migration, dit Jérémie. Seuls les hommes manquent à la loi du Seigneur. » Vous voyez, il n'est pas en train de dire « j'ai mal », non, il dit « c'est mal », comme ça. Et ce geste, on le retrouve dans le corps de Daniel, de notre Daniel, page 538. Ce que Powers appelle le doigt accusateur, à la fin du paragraphe du milieu de la page 538. Donc là, on est dans la joute entre tenant du parc naturel et tenant du parc d'attraction. Et Daniel fait une envolée. Il y va. Il le fait, son Daniel Jérémie. Il y va. C'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Mais il prêchait, c'est la fin. Tout ce que disait Daniel était parole d'évangile. Bon, c'est l'Ancien Testament, mais bon, c'est pas grave. Mais il prêchait avec une telle ferveur messianique que l'assemblée finit par se détourner, lassée de ce nouveau Jérémie, au doigt accusateur. Revoilà Jérémie. J'adore ce prénom Jérémie, parce que pour moi, c'est pas d'abord le prophète, c'est un personnage de Brisby et le secret de Nîmes. C'est le corbeau qui est doublé par Jacques Balutin en français, qui est une espèce de grand maladroit, très amoureux, tout ça. Donc pour moi, Jérémie, c'est pas ça du tout. C'est Jacques Balutin qui se mélange des pinceaux, vous voyez. J'ai toujours beaucoup de tendresse à convoquer ce prénom-là, même si là, c'est pas de ça qu'il est question. Donc qu'est-ce qu'il fait Daniel, page 538, il accuse. Il accuse Apocalypse à l'appui. Et c'est là, dans cette scène, là, mais dans tout roman, la limite existentielle et narrative du personnage de Daniel. C'est pas tant dans ce qu'il critique que dans ce qu'il propose, la limite. La seule solution que propose Daniel, la seule solution existentielle, c'est le retrait. Et c'est presque une chimère. Il faudrait exister en cessant d'exister. C'est peut-être ce que Nietzsche aurait appelé un idéal ascétique. Lui, il utilise cette expression pour parler du christianisme, qu'il connaissait bien. Mais il n'y a pas chez Daniel de proposition de relation autre avec l'environnement. Non pas une relation de pillage, mais non pas non plus une relation de retrait. Il n'y a pas de proposition de collaboration sympathique, je dirais. Pour lui, la paix, c'est à distance. Il n'y a pas de paix possible dans une relation suivie avec la nature. Et avec les êtres humains, c'est compliqué aussi. Par exemple, on aurait très bien pu imaginer qu'il soit jardinier, son Daniel. Et ça n'aurait pas été très étranger à Richard Powers, qui convoque un personnage de jardinière, de femme jardinier, parce que jardinière, c'est plutôt... Dans Gain, qui est paru 6 ans avant, il y a le personnage principal, c'est une femme qui travaille pour une agence immobilière, vous aimez ça, Powers, mais le dimanche, elle jardine, et ça revient dans le roman. Bon, elle tombe malade, c'est beaucoup plus dur que La Chambre aux échos, Gain, mais c'est très bien. C'est pour vous dire que Powers, il sait ce que c'est le jardinage. Et le jardinage, s'il y a une relation d'équilibre possible, modeste, mais fonctionnelle, entre l'homme et le milieu, c'est les fruits et légumes, ça marche, on le sait. On peut faire tourner la boutique fructueusement. Et ben Daniel, non. Daniel, c'est bien un moine, du latin monus, tout seul. Il est seul, il est à côté de la vie, il la célèbre, mais à distance. Oh, que j'aime la vie, de loin, derrière les jumelles. Et c'est peut-être pour ça que Richard Powers n'en a pas fait le personnage principal, parce que ce personnage s'étoufferait dans ce rôle. Daniel, je trouve que c'est un personnage vachement intéressant, mais il est un peu mou. J'aimerais bien qu'il soit mieux, ce personnage. Alors Marc, qui est une espèce de type mal dégrossi, bah, il est tellement vivant, et tellement inventif dans ses délires et tout ça, que en fait c'est lui qui est le plus dans la vie. Mais tant qu'il est là, il ne peut fonctionner, Daniel, comme personnage de roman, que dans des triangles amoureux. En lui-même, il ne tiendrait pas le coup. Le bouquin ne serait pas intéressant si c'était le monologue de Daniel. Donc les triangles amoureux, c'est quoi? C'est Karine et Marc. Il a été et il est amoureux du frère et de la sœur. Ou Karine Karch. Alors, je vous avais fait un petit schéma la dernière fois avec Marc et Karine, les lettres en commun, tout ça. Mais Karine et Karch, vous avez remarqué quand même que ça fonctionne aussi. Donc il est toujours comme ça pris dans des triangles fusionnels. Et il va jouer donc un rôle important par ailleurs dans la résolution de l'intrigue autour du mystère Barbara. Puisqu'on a dit que c'était un pisteur, quelqu'un qui est habitué à écouter des signes, particulièrement les chants d'oiseaux, et en fait c'est lui qui va reconnaître la voix de Barbara. Ça c'est une très belle trouvaille narrative. C'est lui qui reconnaît la voix de Barbara et qui se souvient de cette voix comme étant celle d'une journaliste de télévision. Et à partir de là, on remonte les fils. Barbara est démasquée. Bon, reste que par ses convictions et par ses impasses, ce Daniel, il pose pourtant une question fondamentale du roman vert. Je continue à tricoter mon thème du jour, à savoir, l'écologie ne serait-elle pas une nouvelle forme de religion? Et c'est là-dessus que je voudrais finir. Le voilà, mon grand titre, ta-ta-ta, tambour, trompette, cymbale, une nouvelle religio, point d'interrogation. La religion, c'est pas d'abord un ensemble d'interdits ou de propositions auxquelles croire, étymologiquement, c'est un lien. Religio, ce qui fait lien entre, disons, les hommes et la surnature, pour balisé très large, mais aussi entre hommes tout court. Notons que c'est la même racine que logos, la parole. Religio, c'est du latin, mais derrière religio, il y a legein, en grec. Lié, le lien, qui est à la source du logos. La parole, le discours, la science. Psycho-logos, psychologue, celui qui a la science. Donc ce lien de religio, il peut être assuré par des interdits, par des actes de foi, par des choses qu'on ne doit pas faire et des choses qu'on croit, mais il peut être assuré par plein d'autres choses. Et il peut s'exercer entre les hommes et les dieux, mais aussi entre d'autres choses, comme les hommes et le milieu, tel que les sciences nous permettent aujourd'hui de l'appréhender, ce milieu, et non tel que les religions continuent à vouloir les expliquer. Alors nous, on a un peu oublié ça. Chez nous, les prêtres, ils n'essayent pas trop de nous expliquer comment le Big Bang a eu lieu et tout ça. Ou comment il n'a pas eu lieu. Bon, ils essaient quand même d'intervenir pour certains sur les histoires des génomes et tout ça, enfin, ils veillent au grain, hein, quand même. Mais, chez nous, il n'y a pas cette même force explicative, cette même prétention à nous raconter les origines qu'aux États-Unis. N'oublions pas George Bush défendant l'intelligent design, expression apparemment intellectuelle, le dessin intelligent. C'est difficile à traduire design en français, ça veut dire plusieurs choses. Mais Bush, Bush fils, puis vous avez vu, il y en a un nouveau qui est dans la course. Bon, ouais. Bush fils a longtemps défendu une vision de l'histoire naturelle où il y aurait un intelligent design, c'est-à-dire une intelligence qui serait aux commandes, une intelligence supérieure, si vous voyez ce que je veux dire, ou qui je désigne, une intelligence supérieure qui serait aux commandes. Et, bon, on peut croire ce qu'on veut, mais ça a surtout été l'occasion de financer un certain nombre de centres pseudo-scientifiques, pseudo-scientifiques vraiment, quoi, qui utilisent des fausses preuves, et de saborder un certain nombre de labos de bio, de cracher sur le darwinisme, etc., etc. Et cet univers-là, états-unien, hein, qu'on a vraiment du mal à se représenter nous, mais qui peut concerner, par exemple, les États du Sud, sont très très souvent, même dans leur constitution, influencés par l'intelligent design. C'est pas rien, quoi. Donc, dans des cas extrêmes, ça pousse un certain nombre de savants à dire que les explications scientifiques, c'est du pipeau de gauchiste, et que, en fait, le monde a été créé il y a 5000 ans, comme ça. Enfin, plutôt comme ça. Alors, on peut être monothéiste et parfaitement scientifique, hein. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs très intéressants qui disent « Moi, voilà, écoutez, je travaille dans la rationalité toute la journée, pourtant j'ai la foi, je crois au credo de l'évangile. » Là, c'est autre chose. Hein. C'est une manière de dire, c'est une manière de ne pas séparer les pouvoirs, en fait. Quoi. C'est un truc difficile pour nous d'imaginer ce contexte états-unien où vraiment, c'est un truc à défendre, de dire « Écoutez, on peut expliquer rationnellement la création du monde, scientifiquement. C'est possible. Et c'est peut-être même souhaitable, etc. » C'est un truc à défendre, vraiment. Et il se trouve que ce contexte, il est discrètement évoqué par Powers à 2-3 occasions. Il y en a une assez claire, et ouais, assez claire, page 115. C'est une discussion entre Daniel et Karine. Ils sont en train de retomber en amour, tout ça, et Karine n'arrête pas de lui dire « Si, tu savais comme Barbara est formidable, elle s'occupe de mon frère, c'est merveilleux, qu'est-ce que je suis content d'avoir rencontré cette femme ?» Et elle finit par lui dire « Je me demande si l'accident de Marc, c'était pas pour me faire rencontrer Barbara. » Alors, ça se présente sous cette forme-là, page 115, à peu près au milieu. Elle, Barbara, et c'est Karine qui parle, elle, Barbara, est exactement celle que j'ai essayé de devenir toute ma vie. La meilleure amie de tout le monde. Daniel, point d'interrogation, tu crois qu'il y a une intention derrière tout ça? En anglais, c'est purpose. Un but, quoi. Alors, le pauvre Daniel, qui médite tous les jours, qui essaye vraiment d'être le type gentil, tout ça. Il fit mine de ne pas saisir. C'est presque une scène comique. Il vivait comme un anachorète et méditait 4 fois par jour. Il avait sacrifié sa vie à la protection d'une rivière vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Il vouait un culte à la nature. Tiens, intéressant. Il avait placé Karine elle-même sur un piédestal depuis l'enfance. À tous égards, il était la foi incarnée, mais le mot intention le rendait nerveux. Alors, pourquoi? Bah parce que entre intention, purpose et design, design et purpose, c'est très proche. Et on est post-2001, Bush qui serre la vis, qui dit « Saddam Hussein est responsable et Dieu a créé le monde il y a 5000 ans ». Parce qu'il faut réaffirmer une identité, soi-disant, religieuse face à l'islam. Pof, tout ça, ça donne cette petite scène de roman, qui serait, je veux dire, dans 40 ans, est-ce qu'on comprendra ces trucs-là, hein? C'est vraiment très contextuel, ça. Mais ça touche à une question très profonde. Bon, première occurrence de cette question, et page 369, c'est plus rigolo, c'est le pauvre Marc qui se passionne d'un coup pour des émissions animalières. C'est assez chouette comme scène. Enfin, comme il a un énorme roman, il a vraiment la place de faire des choses comme ça. Il y a un moment où il se dit, tiens, je vais me dire que mon type, après son accident, d'un coup, il se met à s'intéresser au récit animalier. Et ça nous dit ça, page 369. Il fixa son choix sur une émission consacrée aux 3 espèces primitives de mammifères ovipares. Jamais, avant son accident, Marc ne se serait passionné pour un tel spectacle. Citation. La vache. C'est certainement pas la vache. Hein. La vache, qu'est-ce que c'est que ces bestiaux? Mon vieux, il y en a un, il a bien merdé sur les caractéristiques techniques des piafs à fourrure. Je suppose qu'en anglais c'est beaucoup plus savoureux. Enfin, j'en suis sûr même, parce que là pour le coup je suis allé voir. Caractéristiques techniques, qu'est-ce qui est écrit en anglais? Design. Eh oui! Bon, parce que ça peut vouloir dire ça aussi. C'est un mot très souple. Et donc à ce moment-là, le type qui a merdé, c'est les dieux, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette création pourrie où il y a un piaf qui a de la fourrure? Il y a vraiment des erreurs. Bon, donc là, c'est une manière de se moquer de ce dessin intelligent, discrètement, comme ça, avec une scène humoristique. Donc voilà pour cette tentative de certaines formes de religion de continuer à chapeauter une explication scientifique du monde. Mais ça pourrait très bien coller, c'est ça que nous propose Powers. Une explication scientifique du monde comme manière de se relier à lui, ça peut fonctionner, et de façon même plus sensible que ce que fait Daniel, qui reste dans la distance du scientifique. Mais avec un savoir scientifique, on peut être ému par la nature, par l'environnement, et se sentir relié à lui très fortement. C'est un peu une des propositions qu'il nous fait. Mais ils sont pas nombreux à faire des propositions comme lui aux États-Unis. Et je reviens un petit peu sur ce point, pour finir. L'écologie, elle est largement née aux États-Unis. C'est une discipline qui a un de ses lieux de naissance privilégiés aux États-Unis. Et dans un contexte national très particulier, Avant ça, en littérature, la question du rapport entre l'homme et la nature, disons, avait été déjà formulée magnifiquement. Et on en connaît des exemples. Bon, il y a le très beau livre de Thoreau, par exemple, qui s'appelle Walden, qui est le récit d'une expérience de vie dans les bois. Il s'appelle Walden ou La vie dans les bois. Walden, c'est le nom d'un lac, Walden Pond. Ou bien chez le génial Walt Whitman, qu'on avait lu ensemble il y a 3 ans. Passage génial à la fin de Feuilles d'herbe, du premier grand poème. Je fais don de moi-même à la boue pour renaître de l'herbe que j'aime. Si tu veux me revoir, cherche-moi sous tes semelles. Bon, ça, si c'est pas une religion d'avec le milieu, je sais pas ce que c'est. Avec une espèce de truc de réincarnation qui rejoint aussi le processus très, très concret d'hiver, printemps, hiver, printemps. Il y a aussi Aldo Leopold dans la tradition littéraire américaine qui est constamment cité par Powers à travers tout le bouquin, par des petites citations. Un chapitre sur deux commence par une citation de Aldo Leopold et de son Almanach d'un comté des sables, très beau, très très beau titre. Et c'est ce bouquin que Marc offre à Weber à la fin, quand il se sépare. Il lui offre l'Almanach d'un comté des sables de Aldo Leopold. Qu'est-ce qui caractérise très souvent cette littérature et ce discours écologique né aux États-Unis? C'est la pensée de la pureté originelle du pays. Quand les pionniers sont arrivés, déjà le terme de pionnier est intéressant, quand les pionniers sont arrivés, c'était la nature pure. Ça, c'est un fantasme extrêmement puissant dans la culture américaine qui explique très bien les personnages du roman. Donc au départ, c'était l'Éden. Quand on est arrivé en 1492, c'était l'Éden. Les raisons sont complexes, en tout cas elles sont infondées, puisque on sait très bien que le continent était habité depuis le paléolithique, mais il fallait bien mettre du blanco sur tous ces sales indiens, pas très nombreux d'ailleurs, qu'on a massacrés, histoire de se sentir chez soi, de légitimer la présence. Donc il faut une nature pure à l'origine pour que les Américains se sentent chez eux, pour qu'ils se sentent comme autre chose que des envahisseurs. Il faut qu'ils aient conceptuellement une nature pure. Ça, c'est très très bien expliqué dans ce bouquin que j'ai trouvé un peu par hasard il y a quelques temps. Pas par rapport à la Chambre aux échos, mais qui marche bien. Écologie politique, qui est pas un très bon titre. Enfin, moi, je m'attendais, en voyant le titre, à ce que ce soit plutôt une espèce de recensement de l'histoire des mouvements politiques de l'écologie, mais c'est plutôt un bouquin sur les théories de l'écologie. La manière dont elle s'articule à certains groupes politiques, mais c'est plutôt sur la théorie que ça fonctionne. Et justement, ça présente très bien l'immense distinction qu'il y a entre l'écologie américaine et partout ailleurs, quoi. Alors, par exemple, chez nous, un auteur comme Gilles Clément, qui est aussi un jardinier, pour le coup, Gilles Clément, paysagiste, mais qui se définit comme jardinier, c'est un auteur qui me semble beaucoup plus propositionnel que Powers dans les suggestions d'un autre type de contrat entre l'homme et son milieu, qui soit source de sens, mais qui soit source de pratique aussi. Pas simplement de mise à distance dans une réserve, d'une nature vierge et originale. Pour Gilles Clément, l'homme et la nature, disons comme ça, l'homme et le milieu, sont potentiellement des collaborateurs. C'est-à-dire, c'est simple, mais c'est absent du bouquin de Power. Il n'y a pas une forme de collaboration fonctionnelle entre l'homme et son milieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait Power dans ce contexte? Il essaye au moins d'articuler l'homme et le milieu dans la langue. Ça, il peut le faire. Il est auteur, il n'est pas jardinier, mais il est auteur, il peut le faire. C'est à sa portée, et peut-être même qu'il se dit, ça peut rendre service. Ce lien, très difficile à penser pour un Américain, de collaboration entre l'homme et le milieu, c'est très l'idiot, qui peine encore à s'inventer chez lui, dans son pays, dans la pratique, il l'a produit dans la langue. Et en ce sens, Richard Powers est peut-être, j'espère, prophète en son pays. On verra.